La Ligue des droits de l'homme donc prend possession de ces 2 heures, mais en fait ce sera une bonne heure. C'est le podcast, hein, le podcast tout nouveau, hein, de la Ligue des droits de l'homme, voilà, qui a un nom. Hein. Voilà, ce podcast s'appelle Des voix et des droits, et on nous autorise là à prendre et à diffuser trois émissions de ce podcast, qui sont des petites émissions très intéressantes. On va dire 2 émissions, parce que la première est en 2 parties, c'est pour cela, mais c'est le droit de manifester, les délits, et puis la 3e petite émission, ce sera les décisions d'arrêter, les arrêter, voilà, dans les espaces publics. Et donc, les deux premières émissions vont être débattues par Nathalie Théillot, qui est avocate. Et puis, écoutez bien le début de chaque émission. Tout est parfaitement présenté. Voilà. On vous souhaite bonne écoute. Donc. Bonne écoute sur Radio Libertaire, c'est la LDH jusqu'à l'émission d'Henrik, Radio X sans doute à 21h, peut-être un tout petit peu avant, je ne sais pas, restez à l'écoute, hein. Voilà.
De ce podcast consacré à la dégradation du droit à manifester en France, Nathalie Théillot, avocate et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme, a d'abord fait un rappel historique de ces atteintes. Mais dans cette 2e partie, vous allez entendre que cela ne fait qu'empirer à l'heure actuelle. Nathalie Théillot.
On est sur des dispositifs qui entravent la liberté de manifester. Mais ça va beaucoup plus loin maintenant. Il y a eu la loi de 2019, on a créé un nouveau délit. Le délit de dissimulation du visage. Alors, on a gagné aussi sur une chose devant le Conseil constitutionnel, c'est la suppression des possibilités d'interdiction de manifester par le préfet. Vous imaginez le préfet qui aurait pu décider qui ne manifesterait pas. Là, quand même, grande liberté constitutionnelle, c'est pas possible. Mais il a admis que la dissimulation du visage soit un délit, et un délit en plus passible d'un an d'emprisonnement. À quoi ça sert ? Pourquoi ? Parce que c'est complètement disproportionné, vous êtes d'accord, c'est complètement fou de mettre quelqu'un en prison pour un an, simplement pour avoir dissimulé son visage, sans avoir rien fait derrière.
Hein. Oui,
parce que
sûr.
Si on fait, par exemple, mettons des violences avec dissimulation du visage, c'est une circonstance aggravante des violences. Donc on n'a pas besoin de ça. Hein, mais là, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Mince, il se prend des gaz, il essaye de se protéger, parce que quiconque prend des gaz essaye de se protéger, parce que ça fait mal. Et donc il essaye en mettant une écharpe devant son visage. Ça y est, il a dissimulé son visage. Donc vous voyez, c'est extrêmement problématique. Alors bien sûr, le texte dit « sauf motif légitime », mais ce sera à vous de le prouver après. C'est pas facile. Mmh. Et donc ça, à quoi ça sert ? Eh bien, il y a un pénaliste connu, Olivier Kahn, qui parle de délit de convenance policière. Et je trouve que ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est un délit qui est fait seulement pour les policiers, pour qu'ils puissent interpeller qui ils veulent. Ben voilà, ça fait partie des délits qui sont problématiques, comme la loi Estrosi dont je parlais sur le délit de participation à un groupement. C'est pareil. C'est des délits qui sont tellement flous, tellement... Ben ça permet aux policiers en fait d'interpeller, de placer en garde à vue. Et puis on verra bien plus tard. Voilà. Et puis ben évidemment, après, il ne va pas y avoir forcément de condamnation. Mais en attendant, on a sorti de la manif. Et puis, du coup, on ne peut plus exercer sa liberté de manifester.
Voilà.
Et derrière, on est également privé de liberté, ce qui est très grave dans une démocratie. Je rappelle quand même qu'en France, la démocratie, ça s'est institué. Le symbole, c'est la prise de la Bastille. Et c'est quoi la prise de la Bastille ? C'est contre les lettres de cachet du roi, c'est-à-dire la possibilité d'enfermer quelqu'un sur simple décision du roi. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Mais je suis atterrée de voir à la commission d'enquête des policiers qui disent ben au moins on a sorti les gens problématiques de la manifestation.
Mais qui décide qu'ils sont problématiques ?
Voilà.
Et en fait, on
n'a aucune preuve qu'ils ont commis une infraction, mais les policiers ont considéré qu'ils étaient problématiques, donc on peut les sortir de la manifestation. Mais ça veut dire qu'on touche à vraiment. Mais si on réfléchit en termes de liberté, mais. On empêche des gens d'exercer leur liberté.
Et en fait, on a fait sauter la séparation des pouvoirs.
Mais
parce
oui.
que c'est la personne qui juge, qui prend sa décision, qui applique, etc. Le commissaire dit, lui, je ne veux pas qu'il y aille, donc tout de suite, je l'empêche.
Mais vous voyez ce que je vous ai dit, 2019, on a gagné. Le préfet ne peut plus interdire. Ben maintenant, c'est les policiers, c'est bien.
Oui.
C'est formidable.
C'est peut-être pire, donc. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est formidable. Non, mais c'est ça qui, c'est pour ça qu'on lutte, hein, pour dénoncer ça. Mais aussi, on essaye d'avoir des outils juridiques, même quand on attaque le SNMO, etc. Parce que c'est... Et puis, les drones, maintenant. On a les drones. Ça aussi, on avait attaqué, on avait gagné lors de la loi sécurité globale, mais c'est revenu par la bande avec la loi suivante. Parce que ça marche, hein, quand on se mobilise vraiment. Et contre la loi sécurité globale, il y a eu une très forte mobilisation. Et ça fonctionne. Malgré tout, il y a une censure qui est beaucoup plus importante du Conseil constitutionnel quand il y a une forte mobilisation. Parce qu'il y a une pression, notamment démocratique, qui fait que ça rassure le Conseil de pouvoir censurer. Tandis que derrière, il y a eu la loi suivante, responsabilité pénale et sécurité intérieure. Personne ne l'a vu passer. Nous avons dénoncé, mais on n'a pas été entendu de la population. Et puis c'est fatigant. Parce qu'on a eu 3 lois d'affilée, on a eu celle-là, la sécurité globale, puis en même temps, on a eu la loi séparatisme, qui a été ensuite appelée confortant le respect des principes de la République. Ah, ça fait joli, hein. Ça fait très joli. C'est ça qui met la mainmise sur les associations, qui fait regarder les subventions, qui permet des dissolutions à tire-larigot par l'exécutif. Voilà, tout ce qu'on combat, et malheureusement, on vient de perdre le 1er juillet, là, le décret du contrat d'engagement républicain, le Conseil d'État a validé. Bon, on vient de perdre, mais on n'a pas dit notre dernier mot, on va continuer le combat. Mais on voit bien que de plus en plus, il y a la mainmise et la surveillance. Donc la surveillance vis-à-vis des associations, des contre-pouvoirs en réalité, oui. Mais aussi lors de la manifestation, la surveillance des manifestants, les drones, voilà. Et c'est censé, d'après le Conseil constitutionnel, être subsidiaire, c'est-à-dire seulement quand on n'a pas d'autres moyens d'obtenir des renseignements. Et puis, on en voit sans arrêt maintenant. On a un drone à chaque fois. Bon, et tout va bien. Hein, on a attaqué un petit peu, mais on voit que les juges administratifs valident à chaque fois. Donc, on ne va pas attaquer systématiquement. Non, il faut essayer d'agir par rapport au décret lui-même que l'on a attaqué également. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de surveillance de plus en plus importante de la population et encore plus de celles qui contestent. Et puis alors, il y a d'autres techniques, hein, pour entraver les manifestations. Prenons par exemple les casserolades. Formidable. Oui. Alors là, ça a été grandiose. On a utilisé un dispositif antiterroriste, les périmètres de protection. C'est un dispositif antiterroriste qui a été, à la sortie de l'état d'urgence, loi SILT, que l'on avait également condamnée, parce qu'on a dit, ok, on sort de l'état d'urgence, c'était déjà pas normal que ce soit pendant 2 ans. Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il dit, moi je sors de l'état d'urgence, mais il met une loi dans laquelle il permet un certain nombre de dispositifs qui jusque-là n'étaient pas possibles dans le droit commun, et ben il va les mettre dans le droit commun avec la loi SILT. C'était censé être expérimental, et ben dès 2021, il va tout de suite mettre ça dans la loi renseignement, alors que c'était censé être encore en cours d'expérimentation avec un compte-rendu auprès du Parlement. Et là, bon, on arrête l'expérimentation, boum, c'est terminé, on le met. Bon, bah, ça y est, maintenant c'est mis en place. On va utiliser ce dispositif pour empêcher les manifestants d'atteindre finalement jusqu'à Emmanuel Macron avec des arrêtés anti... Alors comment c'était déjà anti-dispositif sonore portatif. Extraordinaire. C'est les casseroles. Bon, alors comme ils n'ont pas réussi, parce qu'on a gagné là-dessus, on a attaqué, on a gagné. Mais l'autre technique pour entraver les manifestations consiste à verbaliser, c'est-à-dire à mettre des amendes aux manifestants. Alors comment on fait ? Eh bien, par exemple, on prend... Alors, pour continuer dans les casserolades, eh bien, on va faire... ce sont des manifestants à Dijon, c'est la section de LDH de Dijon qui nous a alertés, et j'ai rédigé un modèle de contestation de ces contraventions. Trouble à la tranquillité d'autrui. Ça fait trop de bruit, hein, voilà. Ça fait trop de bruit pour les policiers et les gendarmes, donc... Alors qu'on a vu en plus sur certaines casseroles, on a vu des photos avec les CRS qui ont des casques, donc ce qui prouve qu'on peut se protéger contre le bruit si vraiment c'est dangereux pour la santé. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, dans la mesure où ce sont des salariés, donc ils ont droit à la protection par leur employeur. On est bien d'accord. Mais ça relève de l'employeur, ça relève pas. On peut laisser les manifestants quand même protester. Ça fait partie justement de la liberté. Donc ça, c'est une façon.
Mais là, en fait, c'est le lèse-majesté. De même qu'on a réintroduit les lettres de cachet, là, on réintroduit le lèse-majesté. Là.
Alors, le crime de lèse-majesté, il y a un côté comme ça. Pensons, par exemple, alors, sauf que c'est pas censé exister dans une démocratie.
Oui.
Et notamment, c'était au moment de M. Sarkozy. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un manifestant qui avait eu.
Ne touche pas.
C'était casse-toi pauvre con, puisque
ça c'était la réponse de Sarkozy.
Oui, mais le manifestant, non, le manifestant avait mis cette affichette là lors d'un passage et il a été poursuivi, figurez-vous, et c'est allé jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'un juge ait condamné, parce que on connaissait déjà la jurisprudence de la Cour européenne sur d'autres États. Donc on pouvait tout à fait savoir que la France allait être condamnée sur... Eh bien, elle a été condamnée, voilà. Et donc il a fallu ensuite supprimer ce délit en 2013. Donc vous voyez, c'est pas censé exister, le crime de lèse-majesté. Hein.
C'est pas censé.
Eh ben non, c'est pas censé.
Donc on trouve des biais.
On trouve des biais. L'autre solution aussi pour verbaliser, c'est ce qui s'est passé à Paris. Le préfet de police a pris... Alors là, c'était Laurent Nunez, déjà, qui a pris, après le 49-3, et quand vous avez eu les manifestations spontanées, je rappelle que manifester en France, même sans déclaration préalable, c'est une manifestation. Donc ça participe de la liberté de manifester. Il n'y a pas d'infraction. Ça a été rappelé par la Cour de cassation en 2022, mais rappelez-vous ce que disait M. Darmanin, il a dit que s'il n'y avait pas de déclaration, manifester sans déclaration, c'était un délit. Il a fallu que le Conseil d'État lui dise, parce que saisi par, je ne sais plus par qui d'ailleurs, il a dit non, ce n'est pas, c'est une erreur du ministre, mais bon, voilà, il n'a pas été plus loin que ça. Mais de fait, ça aussi, ça participe de l'entrave.
Oui, c'est important ça, c'est-à-dire que ce qui est illégal, c'est d'appeler à la manifestation sans la déclarer. C'est ça. Par contre, une manifestation spontanée, individuelle ou même d'un groupe qui se rejoint, ça reste totalement légal.
Voilà, ce qui est interdit, c'est effectivement d'organiser une manifestation sans déclaration préalable. Mais pour une raison simple, c'est l'idée qu'il faut permettre... Alors, si on reste dans la définition internationale, c'est censé être pour permettre à la force publique, aux institutions, de prévoir le dispositif pour protéger les manifestants.
C'est ça. On revient au tout début, en fait, de notre discussion.
Mais oui, c'est censé être ça. Mm-hmm. Bon, évidemment, c'est pas vraiment l'état d'esprit actuel. Mais c'est censé être ça, pour permettre et pour protéger les manifestants. Moi, j'ai déjà vu, et ça aussi, c'est un problème, le fait qu'on ait supprimé la police de la circulation pour les manifestations. C'est-à-dire que, ça aussi, on coupe les effectifs, mais c'est un vrai problème. Moi, j'ai suivi, en tant qu'observatrice, des manifestations où il n'y avait pas de policiers, mais où, du coup, on laisse les manifestants et le petit service d'ordre qu'il y avait couper la circulation. Moi, j'ai vu au niveau de Gare du Nord, les automobilistes, ils ne sont pas contents. Et il y a des risques de... En fait,
pour les manifestants,
il y a des risques qu'il y ait un dérapage, qu'un automobiliste fonce dans le tas. Enfin, il y a des risques d'accident, tout bêtement. Donc ça... La police est censée être là, justement. Et là aussi, c'était un problème qu'il n'y en ait pas pour faire ce travail-là.
La police est là pour protéger, pas réprimer.
Et notamment protéger aussi lorsqu'il y a des contre-manifestations. Mm-hmm. Au moment où il y a eu les élections, et vu qu'il y a eu beaucoup de... L'extrême droite est arrivée en force quand même au Parlement, eh bien le problème, c'est qu'on a vu dans les... Ça nous est remonté de plein de sections à la fois, donc c'était vraiment général sur la France, où il y a eu des groupes d'extrême droite qui venaient pour menacer les manifestants. Et donc ça, c'est logiquement, moi d'ailleurs c'est ce que j'ai répondu, j'ai dit il faut que vous alertiez, puisque vous êtes en lien avec, soit avec les organisateurs si c'est pas vous qui appelez, soit avec la préfecture puisque vous avez un contact en tant qu'organisateur, et il faut alerter en disant venez nous protéger. C'est censé être la police qui protège, les manifestants. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui s'est passé au moment du 49-3 ? Il y a eu le fait que, tout de suite, il y a eu des interdictions de manifestation. Tout de suite. On a eu des arrêtés du préfet pour interdire. Et alors, le pire, c'est que ce n'était pas publié dans le recueil des actes administratifs, où c'était, en fait, c'était publié très longtemps après. Donc, du coup, on s'est dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est allé voir à la porte, on était trois avocats, notamment Marion Augier, qui a fait le recours. Et on est allé à la porte de la préfecture pour voir, et effectivement, c'était affiché. Mais c'était affiché, après on s'est rendu compte que c'était affiché quasiment à l'heure, ou dans les environs, à l'heure où ça commençait à faire effet. C'est-à-dire vers 17h, et ça faisait effet jusqu'à 3h. Donc quand on a attaqué ces arrêtés devant le juge administratif, lui il se saisissait, c'était trop tard. Donc le lendemain il disait, ah bah je suis désolé, mais c'est déjà passé en fait. Donc non-lieu à statuer. Jusqu'au moment, c'était le 31 mars, où on a réussi enfin à saisir, ça a été publié avant, donc on a réussi à le saisir à temps. Et là, il a dit, oui, effectivement, vous avez raison, c'est illégal. Donc on avait raison, c'était parfaitement illégal. Et parce qu'il faut justifier, hein. Dès lors qu'il y a une interdiction, on est quand même en démocratie, il faut justifier de porter atteinte à la liberté par ces arrêtés d'interdiction. Il faut quand même qu'il y ait des raisons. Des raisons d'ordre public, des raisons... Il faut... Et puis, il y a toute une jurisprudence par rapport à ça. Et on a également gagné sur le fait qu'on a demandé à ce que ce soit publié, que ce soit affiché suffisamment tôt pour nous permettre d'agir dans les temps. On a gagné là-dessus aussi, hein, sur devant le juge administratif. Donc, vous voyez, on a agi, mais malheureusement, pendant tout ce temps, si vous avez bien suivi, c'est passé du 18 mars au 31 mars, où on n'a jamais pu saisir le juge administratif efficacement. On l'a fait, mais ce n'était pas efficace. Mmh. Donc du coup, ça veut dire que derrière, on a eu des verbalisations. Donc on a fait des modèles avec le syndicat des avocats de France. Nous avons fait des modèles de contestation qui sont toujours sur le site de la Ligue. Des modèles pour ceux qui n'étaient pas dans le périmètre. Parce que ça, on a vu ça aussi. Hein. Des gens qui avaient des avis de contravention, alors que ce n'était même pas dans le périmètre interdit. Donc en fait, ils exerçaient leur liberté, puisque encore une fois, manifester de façon spontanée n'est pas une infraction. Donc ça, on a fait un modèle pour ça, un modèle pour ceux qui ne manifestaient pas, mais qui passaient par là, c'est bête pour eux. Hein. Bref, on a fait plusieurs modèles. Mais voyez, ce sont des entraves, parce que ça veut dire qu'individuellement derrière, vous êtes obligé de contester 135 euros d'amende, hein, quand même, si c'est une amende forfaitaire. Si vous passez devant le tribunal, c'est 750 euros. Maximum, mais le problème, c'est que ça ne passe pas en réalité devant le juge, c'est l'amende forfaitaire, alors qu'un juge, il verrait bien qu'il y a un petit problème. Mais tandis que là, ça ne passe pas devant un juge. C'est pour ça qu'on est contre la procédure d'amende forfaitaire, notamment en matière de manifestation. On est contre, parce que ça veut dire que les gens sont tout seuls chez eux à devoir contester et évidemment, c'est un tout petit peu compliqué juridiquement. Même quand on fait les modèles, on fait un vademécum, hein, pour essayer d'expliquer ce qu'il doit faire, etc. Mais c'est un tout petit peu compliqué. Or, on n'a pas les forces non plus d'aider chacun individuellement. Donc, on ne fait que mettre des modèles. Voyez, et ça, c'est problématique. C'est une grosse entrave aussi à la liberté de manifester. Parce que finalement, le préfet, il n'aurait jamais dû prendre ses arrêtés. De lui-même, il sait que c'est pas légal normalement.
Mais il
doit apprécier et ne pas prendre ses arrêtés. Il l'a fait. Ça fait partie, hein, de tout ce qu'on aperçoit comme entrave. Et c'est insidieux. Autre chose insidieuse. Ben, vous savez que vous avez l'interdiction d'utiliser un mégaphone sur la place de la République tous les week-ends. Hein, voilà, formidable. Hein, mais en fait, c'est juste pour le collectif algérien. C'est parce qu'il manifeste là tous les dimanches. Voilà. Et c'est contre lui, en réalité.
D'accord.
Voilà. Mais c'est... Personne ne le sait. C'est insidieux. Puis alors, quand il y a la manif des retraites, alors là, je ne vous dis pas Parce que c'est censé... Quand je dis on n'a pas le droit de prendre un mégaphone, parce que dès qu'on en prend un, on dépasse les 81 décibels. Et c'est, en fait, c'est ça. C'est l'interdiction de dépasser 81 décibels. Mais je ne vous dis pas, quand il y a les manifs retraites, même un week-end, hein, ça fait largement au-dessus des 80 décibels. Mais eux, ils ne sont pas embêtés. Parce qu'on ne vise... qu'une seule association un collectif plus exactement, qui eux se font verbaliser tous les dimanches. Voilà.
C'était Nathalie Théillot, avocate et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Le 11 août dernier, à la suite d'une intervention de la Ligue des droits de l'homme, le juge des référés a partiellement au moins suspendu l'exécution de l'arrêté municipal d'Angoulême du 11 juillet qui interdisait notamment de demeurer assis ou allongé sur le domaine public. Pourtant, ce type d'arrêté, souvent surnommé arrêté anti-précaire, n'est pas rare. La LDH et la Fondation Abbé Pierre les attaquent régulièrement. Marion Ogier est avocate et membre du comité national de la LDH. Elle est l'invitée de ce nouveau numéro de Des voix et des droits, le podcast de la LDH, et je lui ai demandé pourquoi des maires continuent de signer ce type d'arrêté. Est-ce que, par exemple, ce serait pour des raisons électorales ?
Oui, c'est d'abord électoral. Dans de nombreuses communes, les maires sont régulièrement saisis de plaintes, qu'il s'agisse des riverains, des commerçants, en raison du mode de vie des personnes qu'on dit aujourd'hui marginales, un mode de vie qui est jugé parfois incommodant pour certaines personnes. Et précisément, c'est pour répondre à cette demande, dans une logique évidemment toujours un peu électoraliste, hein, que les maires s'emparent de leur pouvoir de police et décident au nom du trouble à l'ordre public, au nom de l'ordre public, de prendre des mesures qui consistent ni plus ni moins qu'à éloigner les personnes dites marginales des centres-villes en leur interdisant d'occuper l'espace public en étant, par exemple, allongés ou assis.
Alors, ça rejoint en fait tout ce qu'on a fait depuis des années en enlevant les bancs, en mettant des pics anti-SDF un peu partout. Puisqu'on arrive à suspendre ces arrêtés, c'est bien qu'il y a un problème avec ça. Quelle est la légalité autour de ça ?
Un arrêté par lequel le maire interdit, sous peine de contravention, d'occuper le domaine public, c'est une mesure de police. Ça signifie que c'est une mesure qui vient ajouter une contravention nouvelle au dispositif pénal qui existe déjà. Et pour cela, il faut montrer qu'il y a une nécessité de remédier à un trouble très particulier en raison des circonstances locales, que la mesure qu'on prend va être adaptée pour pallier à ce trouble et sans être disproportionnée. Et c'est précisément le champ de notre argumentation qui consiste à dire qu'en général, il n'y a pas de trouble plus grave qu'ailleurs et qu'un mode de vie qui peut parfois préoccuper une population, l'irriter, créer des tensions, en soi, ce mode de vie ne justifie pas un trouble suffisamment grave pour prendre de telles mesures, d'autant plus que le code pénal réprime déjà des comportements qui sont ceux tels que la mendicité agressive, l'ivresse publique, le fait d'injurier les personnes. Donc on constate que le code pénal est déjà présent, mais que pour autant les maires ne les mobilisent pas, enfin en tout cas la police agit très peu sur la base de ces dispositions du code pénal, et que les maires ont tendance à prioriser des arrêtés qui sont ni nécessaires ni adaptés, et encore moins proportionnés, toujours dans cette idée de communication politique pour considérer qu'ils ont agi et pour en faire cette promotion auprès de leur électorat.
Et alors, est-ce qu'il y a, je continue sur la même idée, est-ce qu'il n'y a pas de la pédagogie à faire auprès des maires en leur disant mais il existe déjà l'arsenal judiciaire, est-ce que vous avez besoin de répondre au coup par coup? Mais on sait que c'est une politique globale que le gouvernement a aussi, il y a un problème, on invente une loi, mais est-ce que la LDH peut travailler là-dessus?
Alors la LDH le fait, elle le fait en particulier en audience. Lorsqu'on attaque ces arrêtés, c'est précisément ce qu'on explique. Et d'ailleurs, on obtient quasiment tout le temps gain de cause, puisque la LDH a récemment, à Metz ou à Angoulême, obtenu la suspension de tels arrêtés. Dernièrement, elle a attaqué un arrêté similaire à La Rochelle. Mmh. Le juge des référés a rejeté le recours pour défaut d'urgence, ce qui est particulièrement, à mon sens, décevant dans la mesure où on est sur des arrêtés qui portent atteinte à la dignité des personnes, et que lorsque c'est la dignité des personnes qui est en jeu, je crois que c'est nécessairement urgent, et que lorsque le juge des référés admet l'urgence à suspendre de telles mesures à Angoulême ou à Metz, on comprend difficilement qu'il en aille différemment à La Rochelle.
Mais là, c'était parce que c'était en rapport avec la période des vacances.
Pas spécifiquement, en plus c'est un arrêté qui a été pris ad vitam aeternam, c'est-à-dire sans limite de durée, ce qui est manifestement illégal. Ouais. Donc on donne rendez-vous au tribunal, cette fois dans la formation ordinaire, et on est tout à fait optimiste sur le fait que cet arrêté de La Rochelle sera annulé encore une fois.
Mais d'une façon générale, est-ce que c'est pas une préfiguration de ce qui nous attend pour l'année prochaine? D'une façon générale, à Paris par exemple, on a quand même beaucoup parlé du fait qu'on allait expulser tous les gêneurs au moment des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'expérimenter un arsenal qui servira à ce moment-là?
Alors, il est vrai que les JO, comme tout événement extraordinaire de manière générale, sont à l'origine de dispositifs normatifs qui sont réputés être exceptionnels, dérogeant au droit commun, mais qui ont vocation à s'incruster, à se banaliser dans le temps, dans notre droit de base. Donc j'espère que ça n'est pas l'objet de ces dispositifs, parce que ça serait extrêmement grave. De toute façon, ces dispositifs, comme je le disais, pour le moment, ils sont considérés comme étant illégaux en général par le tribunal. Mais c'est vrai que les administrations ne manquent pas de créativité pour essayer à chaque fois d'outrepasser le droit. Et s'agissant d'Angoulême comme de La Rochelle, on a eu l'information de ce que c'est la préfecture qui aidait les communes à rédiger ces arrêtés pour précisément qu'ils parviennent à passer les mailles du filet de la jurisprudence administrative et européenne. Parce qu'à cet égard, il faut avoir en tête que depuis 2021, la Cour européenne des droits de l'homme dit que le fait de se prêter à de la mendicité non offensive, non agressive, est illégal. Le fait de réprimer cette forme de mendicité. Donc, en effet, on assiste à diverses manières de la part des autorités d'essayer de détourner le droit pour éloigner les personnes les plus vulnérables, sans doute dans une logique de dissimulation de la pauvreté et aussi peut-être un peu de culpabilisation de la part de l'administration de ne pas mettre les personnes qui sont dans la rue aujourd'hui à l'abri.
C'est-à-dire que c'est l'État qui aide les collectivités locales à se débarrasser des gêneurs.
Tout à fait.
D'une façon générale, il y a d'autres lois au niveau, par exemple, la loi Kasparian-Berger, qui a été adoptée il y a quelques mois, qui donc criminalise le squat, d'une certaine manière. Est-ce que c'est un recul du droit au logement ?
Cette loi crée en effet des nouveaux délits, notamment pour les locataires qui sont en situation d'impayé et qui restent dans le logement à la fin de la procédure d'expulsion, comme les personnes qui squattent des logements vacants par état de nécessité. Cette loi, donc, aujourd'hui criminalise ces personnes puisqu'elles encourent 3 ans de prison. En effet, c'est une loi qui clairement crée un recul pour le droit au logement, d'abord parce que elle ne prend pas en compte l'état de nécessité de ces personnes, et ensuite et surtout parce que elle conduira inéluctablement à l'accroissement des personnes à la rue. On est sur une logique de répression qui domine, en lieu et place d'une autre logique qui devrait être celle qui devrait dominer, à savoir celle de l'accroissement du logement, de la réponse à la crise du logement, d'autant plus à une période où les locataires sont fragilisés par l'inflation ou la hausse des loyers.
Ensuite, il y a les couvre-feux imposés aux jeunes. Ça, c'est encore une interdiction supplémentaire posée sur une population qui est souvent déjà stigmatisée. Là encore, la LDH a attaqué, mais quel est l'objectif au fond de ce genre de choses? C'est encore une fois électoral, pour faire plaisir aux bons bourgeois?
Sans doute. Ce sont en effet des arrêtés qui soit introduisent des couvre-feux à l'issue, par lesquels les mineurs ne peuvent plus sortir de chez eux après une certaine heure, soit ces arrêtés interdisent le regroupement dans la rue de personnes. On assiste à beaucoup d'arrêtés. À chaque fois, la Ligue des droits de l'homme se mobilise et à chaque fois, elle gagne. On a vu des victoires à Meudon, Sèvres, Pont-de-Sainte-Maxence, Roubaix, Tourcoing, pour ce que je connais. Et à chaque fois, ces arrêtés sont pris dans une logique sécuritaire, au motif que c'est un discours qu'on entend assez souvent. Les jeunes n'auraient rien à faire le soir dans les rues. Et évidemment, cette logique intervient au mépris total des libertés individuelles. C'est une manière de dire qu'on lutte contre la délinquance, mais on voit rapidement la limite du raisonnement, puisqu'on ne peut pas interdire aux personnes de sortir de chez elles et interdire aux personnes d'aller et venir au seul motif qu'il existerait des actes de délinquance. En réalité, ce qu'on constate, c'est que soit ce sont des arrêtés totalement cosmétiques qui appuient une forme de communication politique sans jamais être appliquée, ou soit, et là c'est d'autant plus grave, ils sont appliqués mais dans une logique discriminante puisque c'est toujours les mêmes personnes qui sont stigmatisées et qui font l'objet de verbalisations là où une autre partie de la population, elle, ne risque jamais rien.
Il y a autre chose qui est sympathique, c'est qu'on a, c'est l'histoire des casserolades. On a commencé à verbaliser des gens qui sortaient avec des casseroles.
Alors en effet, les casserolades, là, ça nous ramène quelques mois en arrière au temps de la répression des manifestations contre la réforme des retraites. On a eu dans un premier temps des interdictions de manifester chaque jour par des arrêtés que chez nous on dit jetables, c'est-à-dire un arrêté qui est pris pour une journée, pour une intervention, pour une visite du président, d'un ministre dans un lieu particulier.
Et qui n'a pas le temps d'être attaqué.
C'est très compliqué de les attaquer puisque souvent ils sont publiés, mis en ligne. Si déjà on a la chance de les voir mis en ligne, ce qui n'est même pas le cas à chaque fois, mais lorsqu'ils sont mis en ligne, c'est souvent quelques heures avant le déplacement présidentiel ou le déplacement ministériel, ce qui rend extrêmement compliqué le fait de les attaquer. Mais on a quand même réussi à le faire à plusieurs reprises et à faire juger que cette pratique qui était la pratique soit d'instaurer un périmètre de protection dans le cadre duquel les personnes ne pouvaient pas intervenir, ne pouvaient pas aller et venir et ne pouvaient pas justement avoir avec elles un dispositif sonore portatif, c'est comme ça qu'on les appelait, c'était simplement des casseroles. On a obtenu gain de cause, la LDH et d'autres syndicats ou associations ont obtenu gain de cause. En effet, on a assisté à des arrêtés qui interdisaient les casseroles dans une logique de dissimulation ou en tout cas d'invisibilisation la forme de répression, enfin de la forme de manifestation, pardon, des personnes qui entendaient exprimer leur mécontentement et leur désaccord sur cette réforme. Donc l'idée de ces arrêtés, c'est de dissuader, on interdit aux gens de manifester, on les dissuade de venir, et puis pour les plus courageux qui viennent, eh bien, on les baïonne dans le sens où on fait en sorte que les éléments qui vont être sonores, qui vont permettre d'accroître l'expression des personnes soit censurée. On l'a vu dans un autre moment de cette réforme. Rappelez-vous, je crois qu'on était à la toute fin du mois d'avril 2023 où le président devait aller au Stade de France pour la finale de la Coupe de France Nantes-Toulouse. Et à cette occasion, on avait interdit les cartons rouges et les sifflets précisément parce que ce sont des signes qui rendent visible l'opposition et c'est toute l'idée de ces arrêtés de la rendre invisible.
Mais en fait, de podcast en podcast, on se rend compte, et avec toutes les personnes que je rencontre, qu'il y a tout un arsenal de tous les côtés pour en fait empêcher le peuple de s'exprimer.
Tout à fait. Et on entendait au début, on m'a interrogé sur le point de savoir s'il s'agissait des dérives. Je crois que non, il ne s'agit pas d'une dérive, il s'agit bien d'une méthode. Tout ça est orchestré, réfléchi, et on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une simple dérive, et c'est bien toute la difficulté.
Vous avez attaqué à Fréjus un arrêté anti-burkini. Vous avez gagné. Comment ça s'est passé ?
Chaque année, chaque été plutôt, on assiste, je crois maintenant, à la série du burkini, alors que cette série n'a pas lieu d'être, puisque depuis 2016, le Conseil d'État a jugé, s'agissant du burkini, qu'on ne pouvait pas l'interdire sur les plages sans un trouble à l'ordre public grave, puisqu'une telle interdiction porte atteinte à la liberté et venir des personnes, à leur liberté de conscience, à leur liberté individuelle. Le Conseil d'État a été contraint de le rappeler encore à la suite d'un arrêté du maire de Mandelieu-d'Anapoule cet été. Et pour autant, chaque année, on assiste à de tels arrêtés et là il s'agissait, vous faites allusion à celui du maire de Fréjus, oui. Qui a été pris en août 2023. Alors cette fois, le maire a essayé de contourner la jurisprudence du Conseil d'État en indiquant dans son arrêté que l'interdiction était justifiée par la sécurité des baigneurs au motif que le burkini poserait un problème de sécurité. Évidemment, nous avons démontré que tel n'était pas le cas, que ni en piscine ni en mer le burkini ne pose de difficultés en termes de sécurité, que ce soit pour les tiers ou pour la personne qui le porte. Évidemment, le juge n'a pas été naïf et n'a pas été piégé par cet arrêté. Il a bien compris qu'il s'agissait là, ni plus ni moins, que de détourner la jurisprudence du Conseil d'État. C'est la raison pour laquelle nous avons obtenu gain de cause. Vous savez, les maires savent pertinemment que ces arrêtés sont illégaux. Ils ne l'ignorent absolument pas. Mais le fait de les signer permet ensuite de dire aux populations qu'ils ont agi, oui, coûte que coûte, pour éviter la présence des burkinis sur leur plage. Et
donc pour stigmatiser une certaine population, pour lui faire entendre qu'elle n'est pas la bienvenue.
Exactement.
Et pour en attirer peut-être une autre, justement.
Et aussi pour, je crois, faire basculer sur les juridictions administratives la responsabilité de ce qu'ils osent appeler le grand remplacement ou la complicité à l'islamo-gauchisme. En fait, c'est une réflexion, une stratégie d'extrême droite qui est tout à fait réfléchie. Et précisément, je crois que l'idée est que ce soit les juridictions administratives qui puissent dire en lieu et place des maires quelle est la règle applicable.
Bien, bah, tout ça est joyeux. Où va-t-on, à votre avis? Quelle riposte on peut imaginer? C'est au coup par coup à chaque fois?
On intervient, oui, c'est vrai, au coup par coup, parce qu'il est difficile d'anticiper en amont. Et on a aussi peu de temps et peu de moyens pour envisager les choses sous un spectre un peu plus large. Je crois qu'il faut quand même être optimiste. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que la mobilisation de la LDH, aussi d'autres associations, mais tout particulièrement de la LDH, permet d'obtenir des victoires par le droit. La lutte par le droit, aujourd'hui, fonctionne. C'est déjà ce qu'il faut retenir
les
de tout ça.
Les juges vous suivent.
Voilà, donc c'est déjà un bon point. Et sur ce, je crois qu'il faut être optimiste et voir la valeur de l'action de la LDH à travers tout cela. Maintenant, le droit, c'est évidemment essentiel pour redresser les comportements qui ne respecteraient pas les normes. Maintenant, le droit ne suffit pas. Le combat ne se fait pas uniquement dans les tribunaux. Il faut aussi faire un combat dans la rue ou en tout cas en dehors des tribunaux pour sensibiliser l'opinion, les pouvoirs publics sur les questions. On a parlé du logement, je crois que c'est une question pour laquelle précisément le droit est limité. Le juge administratif n'est pas un administrateur, il ne peut pas ordonner aux pouvoirs publics de construire des logements. Donc le droit a ses limites, il fonctionne mais il a ses limites et il faut maintenant se mobiliser également dans la rue auprès des pouvoirs publics.
C'était donc Marion Augier, avocate et membre du comité national de la LDH.